au réseau Cogeco. Vous écoutez les week-ends de Paul Oud, votre magazine de la fin de semaine.
Comment allez-vous, chers amis? Samedi, il va faire beau à Montréal. Ailleurs, il y a des possibilités d'averses tout au cours de la journée, si vous êtes à Gatineau, si vous êtes dans la région de Sherbrooke, en Estrie, ou encore Trois-Rivières, Shawinigan, en Mauricie. Possibilité d'averse. Ça ne veut pas dire qu'il va pleuvoir, mais à Montréal, c'est généralement ensoleillé et le maximum prévu, 19 degrés.
Partout. Il faisait 9 ce matin.
Ben oui, ça faisait du bien.
Et ça faisait comme oui, beaucoup de bien.
Et les vents sont tombés.
Oui.
Finalement.
On a eu des vents.
C'était quoi, ça?
Ben, c'est parce qu'il y avait eu un refroidissement important.
En tout cas.
Cette semaine. Puis souvent, quand il y a des masses d'air chaud et froid qui se rencontrent, ben, ça donne beaucoup de vent.
Ouais, quand tu restes sous les arbres, t'aimes pas ça.
Non, surtout dans votre coin. Surtout dans votre coin. Évidemment, on vous consulte ce matin sur les municipalités parce que c'est la publication pour la 10e année dans le Journal de Montréal de l'indice du bonheur des villes. L'endroit où les gens, les citoyens et citoyennes sont les plus heureux, c'est dans la belle ville de Shefford.
Oui.
La nouvelle ville du bonheur, mesdames, messieurs, c'est Shefford, incorporée, tenez-vous bien, en 1792. Hey, les Français étaient en pleine révolution.
Écoute, c'était pas fini.
La révolution française, là, battait son plein en 1792, ouais, quand ouais. Shefford a été incorporé. Les citoyens terrestres sont heureux et heureuses à
Shefford. Heureux et sont heureux aussi à Mirabel. On a beaucoup d'auditeurs nous parlent de Mirabel, Martin.
Oui.
Et nouvelle importante, Martin veut faire une correction. Ce n'est plus Mirabel... La vie est belle, non. Comme slogan.
Non, on a changé le logo, si vous voulez, de la ville avec un M, tu sais, stylisé, si vous voulez. Mm-hmm. Puis à cette heure, on utilise ce M-là, puis on met « on aime le M la ville, on aime Mirabel, on
un
aime
peu
la,
comme
la culture. »
Un peu là, comme McDonald's, hein, qui avait pris son arche, là, son M, pour en faire des jeux de mots comme « j'aime ».
Exactement, ouais. C'est ça la chose. Donc, on aime tout à Mirabel. Ça.
Mais il y a un auditeur qui nous dit « moi, je suis arrivé à Mirabel alors qu'ils ont bâti l'aéroport. Je suis de Saint-Janvier. Je demeure dans la maison familiale et ça s'est bâti. Ça n'a même pas de sens. Là. La maison, en 69, la maison coûtait 20 000 $ Aujourd'hui, elle doit en valoir à peu près 400 000. Il dit « c'est certain que j'ai rénové, mais il est très heureux à Mirabel. » Il y a un auditeur qui nous rappelle un souvenir. Lui, sa grosse déception de Mirabel, il y vit depuis longtemps, c'était l'expropriation à cause de l'aéroport. Je vais simplement dire une chose. À l'époque de l'expropriation, j'étais journaliste à La Chute. Et je me souviens de l'annonce de l'expropriation. Je me souviens des débuts de l'expropriation, des terres agricoles immenses, extraordinaires, expropriées. J'ai vu des maisons centenaires incendiées par le service des pompiers de l'endroit.
Secteur Saint-Scolastique, notamment.
Oui, exactement. Et j'avais pris une photo d'une des maisons incendiées. Et dans mon journal, dans l'Argenteuil à l'époque, à La Chute, j'avais écrit... C'est incroyable, des maisons centenaires qui sont incendiées. Et j'avais mis la photo de cette maison-là, qui était une maison en pierre, des champs, c'était épouvantable. Et je m'étais offusquée de ça. Et on avait repris ça à l'Assemblée nationale, dans le cahier de l'Assemblée nationale. On avait dit, même la journaliste Thérèse Parisien s'offusque, c'est offusqué de... Parce qu'eux autres, il y a...
Ah, c'est un chapitre.
Dans l'opposition, écoute, c'est épouvantable. C'est un chapitre
extrêmement douloureux,
oui,
dans l'histoire,
oui,
de cette très belle région agricole.
Exactement.
C'est pire parce qu'elle ne sert plus. Tu sais.
Ben
c'est
oui,
ça,
ben,
c'est ça qui
arrive. C'est ça, quand on regarde le bilan.
On aurait pu le deviner un peu, mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Il y a quelqu'un qui nous dit, moi, je viens de Saint-Hyacinthe, Belleville, tranquille, agricole, beaucoup de travail pour les gens. Et ça coûte moins cher pour les sports, par exemple, pour les enfants. En plus, un beau centre-ville, une belle exposition agricole, Bruno, nous dit, moi, je l'aime, ma ville. Quelqu'un nous écrit aussi, je demeure dans le vieux Saint-Eustache, magnifique endroit. J'ai été agréablement surprise en
historique endroit.
Ouais. Il y a 7 ans, après avoir passé la majeure partie de ma vie à Chemédé et Duvernay, tu vois, pas à Laval.
Ah, ouais, mais ça.
Et c'est
à Saint-Eustache, là, tu vas juste marcher autour de l'église, tu vois les marques de boulets sur l'église.
On est au cœur.
La rivière sur la passerelle qui borde
le moulin. On est au cœur des patriotes.
Le moulin Légaré.
Exact.
Moulin Légaré qui est en opération depuis 1762.
Oui.
On parle de ça, là. Tu parlais tantôt de... j'ai grandi à Saint-Jean-sur-Richelieu, quelqu'un d'autre, et j'ai quitté pour les Laurentides, il y a 3 ans, pour Sainte-Sophie, New Glasgow.
Sainte-Sophie, dont on vous a fait entendre la chanson Thème tout à l'heure.
C'est Mario.
Je pense à mon ami Ricardo Larrivé, tellement fier, lui, Chambly. C'est vrai que c'est beau, Chambly.
Hey, c'est drôle, vous parliez tantôt. C'est vrai que c'est beau, Chambly. T'as raison. Vous parliez tantôt des slogans. Moi, quand je passe à Sainte-Julienne, parce que je passe à Sainte-Julienne, évidemment, deux fois par jour, je traverse Sainte-Julienne et le nouveau slogan de Sainte-Julienne avec les pancartes, c'est « Sainte-Julienne, j'habite mon bonheur ». Alors, il y a quelqu'un qui nous écrit « J'habite mon bonheur, vous saurez où je vis ». Et effectivement, je sais que c'est Sainte-Julienne. Saint-Côme dans les Laurentides, la belle rivière l'Assomption. Allô, on est vos camionneurs préférés. On demeure à Val-des-Monts. Val-des-Monts, en banlieue de Gatineau, c'est ça?
Me semble.
Ouais. On demeure à Val-des-Monts, pas de voisins. Sur une route secondaire, on entend les oiseaux le matin. Après avoir passé du temps sur les routes dans le gros trafic des grosses villes américaines, on apprécie ce moment de répit. C'est en banlieue de Gatineau. Ah, tu vois, on nous le dit. Et qu'il n'y a rien de négatif à dire. Nous sommes originaires de l'Abitibi. Ça nous manque un peu, mais on est ici depuis 20 ans et on ne regrette pas. Et c'est Sylvie et Stéphane, Paul.
Ah ben, on vous salue en ce samedi matin. Êtes-vous fiers de votre ville? Est-ce qu'il y a quelque chose pendant que vous n'aimez pas dans votre ville? Dites-nous-le au 98985. J'aimerais savoir s'il y a un classement comme ça dans les grandes villes américaines. Il doit y avoir un indice du bonheur aux États-Unis. Allons dans la plus grande ville américaine, retrouver Richard Châteauvert. Bonjour, Richard.
Bonjour, Paul. Il existe un classement, effectivement. Je pensais que New York serait numéro un, mais New York est 122e comme ville où les gens sont les plus heureux. La première ville, c'est Fremont, en Californie. Mais il faut comprendre, c'est dans la baie de San Francisco. C'est juste un peu au nord de San Jose, au sud d'Oakland. Je vois très bien. Et San Jose est cinquième ville. San Jose, c'est une ville magnifique. Et quelle ville est sixième, la meilleure ville aux États-Unis, la ville où les gens sont les plus heureux? South Burlington, au Vermont.
Ah, ben, tiens, c'est pas loin. C'est pas loin.
D'ailleurs, San Jose, là, les joueurs de hockey qui vont jouer à San Jose prennent moins d'argent pour rester là. Si tu parles avec Marc Edouard Vlasic.
Tellement ils aiment ça, hein?
Tu parles à Marc-Édouard Vlasic qui dit « Je reste dans un paradis sur Terre ». Dan Boyle, après sa retraite, a demeuré dans la région.
Et Richard, ce qui contribue aussi à faire de San Jose une ville très appréciée, c'est que les salaires sont très élevés parce qu'on est dans la Silicon Valley là, à ce moment-là.
Oui, effectivement, mais ce que je veux dire, la ville, c'est plutôt une ville de gauche, c'est une ville où tout est tranquille, il y a moins de violence. C'est vraiment une région, le sud de San Francisco, qui est très bien. Vous avez raison, les gens, évidemment, ont des salaires élevés en général. Il y a des villes Dakota du Nord qui peut s'imaginer que Bismarck...
Ben oui, je pensais
Dakota
là.
Du Nord, Bismarck et Fargo sont deuxième et troisième.
Certainement, et je peux en témoigner à... Fargo, là, comme le film, d'ailleurs, Fargo, quel excellent film. Vous devriez voir ça, le beau petit centre-ville. C'est, en anglais, on utilise l'expression « vintage ». On a gardé, Richard, vous savez, ces fameux centres-villes où les voitures stationnent en oblique à l'extérieur.
Oui, on voit ça dans combien de villes américaines?
J'adore ça. Alors, Bismarck...
Je pense que ça vient des chevaux, hein? Ça a commencé avec les chevaux.
Oui, à cause... Ben, c'est ce qu'on m'a expliqué aussi, c'est que les chevaux, et avec la charrette en arrière, ça prenait tellement de place qu'on récupérait de l'espace en demandant de se stationner, de garer la charrette et le cheval de façon oblique.
Oui, il y a beaucoup de villes. Les villes américaines, les petites villes américaines sont très belles. Hein? Il y en a ici dans l'État de New York, le long du fleuve Hudson. Je pense à Saugerties, Woodstock, évidemment, c'est très beau. Il y a moyen d'être heureux aux États-Unis, mais, malgré ce qui se passe ces jours-ci.
Bien sûr, bien sûr. Nous sommes à la veille des Oscars, Richard. On va en parler demain. Thérèse a fait ses devoirs. Elle a regardé plusieurs films se retrouve en nomination et Henri Arnault en direct d'Hollywood sera avec nous. Le film Nomadland est favori avec 6 nominations. Mm. L'avez-vous vu, Thérèse?
Oui.
Oui, vous avez aimé ça?
Et alors, Thérèse?
Frances McDormand, là, ça va être meilleure actrice, c'est elle, je pense.
Ah bon, OK. Alors, moi, je l'ai pas vu, mais il y a une scène dans le film. Évidemment, elle est une nomade américaine parce que ces gens-là existent. À un moment donné, dans le film, il y a quelqu'un qui lui demande, elle dit, elle lui demande, vous êtes sans abri? Elle dit, non, je suis pas sans abri, je suis sans maison. Parce qu'elle elle vit dans son Ford Econoline. Hein?
Ouais.
Ah, mais ça, c'est une autre tendance. Richard, sur la côte ouest, là, c'est devenu tellement cher que des gens habitent dans leur van. C'est-à-dire, c'est ça. À Portland, en Oregon, ils ont été obligés de passer un règlement municipal. Ça avait pas de bon sens. C'était une suite ininterrompue de fourgonnettes. Des gens habitaient là-dedans.
Alors, c'est dans le film, il y a une scène chez Amazon dans un centre de distribution. C'est une scène qui est très courte. Et Fern, le personnage incarné par Frances McDormand, travaille chez Amazon. Et en plus, ils ont obtenu la permission de tourner dans ce centre de distribution, tout simplement parce que Frances McDormand elle-même a écrit une lettre à un vice-président d'Amazon. On leur a permis de tourner dans ce centre de distribution. La raison pour laquelle je vous en parle ce matin, c'est que, premièrement, le livre est tiré d'un livre écrit par Jessica Bruder. Et elle, c'est une jeune journaliste et elle a voyagé pour aller à la rencontre de ces nomades. Elle a travaillé elle-même dans un centre de distribution Amazon en 2015. Et il y a vous imaginez-vous, Amazon a commencé un programme en 2008 qui s'appelle Camper Force. Amazon recrute les gens qui vivent dans ces véhicules récréatifs et en particulier les personnes âgées. Parce que les personnes âgées sont extrêmement fiables, évidemment. Faut comprendre, la vie est difficile ici, là. Actuellement, il y a 20% des Américains âgés de 65 ans et plus qui travaillent. C'était 10% seulement en 1986. Et près du tiers des ménages dirigés par une personne de 55 ans et plus n'ont pas d'économie pour la retraite. Donc, les gens travaillent très tard.
Alors,
Camper Force, c'est un site où Amazon dit aux gens voici où on a des places actuellement. Là, je viens de vérifier ce matin, il y a 27 sites sur lesquels les gens qui ont des véhicules récréatifs peuvent travailler, sont payés $15 de l'heure. Mais savez-vous que ces centres de distribution mesurent comme c'est l'équivalent de 2 ou 3 terrains de football.
Ben oui.
Et il y a un homme qui avait 70 ans en 2015. Il témoigne, il marchait 25 kilomètres en 10 heures. Imaginez-vous quand vous avez 70 ans, vous marchez 25 kilomètres en 10 heures. C'est exténuant.
Dans son travail. Et pour témoigner de ce que vous dites, moi j'ai visité, enfin non, j'ai pas visité, on n'avait pas le droit. Mais le siège social d'Amazon, il est à Seattle, une ville absolument remarquable. C'est incroyable le nombre de sièges sociaux, de Fortune 500 qui sont là. Et vous devriez voir en banlieue, Richard, de Seattle, où sont les installations, les entrepôts là, de Amazon à Kent, Washington. C'est incroyable. Vous roulez pendant 10 minutes en auto et vous n'avez pas fait le tour du bâtiment.
Ah, non, Amazon, c'est...
Alors, imaginez-vous le marchement qu'il y a en dedans quand vous travaillez là.
Ah ouais, Amazon, c'est le General Motors comme employeur, c'est plus important que Walmart. Les centres de distribution, là, pour vous donner une idée, c'est 1 million de pieds carrés en mètres, c'est 100 000 mètres carrés. C'est tellement grand qu'il y a un des personnages dans son livre qui dit qu'il appelait une partie de l'entrepôt, il donnait des noms d'État aux des parties d'entrepôt, fait qu'il disait à l'autre, va au Nevada, ça voulait dire dans tel coin.
Tellement, il y a certains coins de l'entrepôt qui ne sont pas sur le même fuseau horaire.
Oui, effectivement. Alors, c'est tellement grand.
Non, écoutez, il y a un petit documentaire de 16 minutes qui a été tourné à partir du livre de Jessica Bruder. Je vais le poster sur mes deux pages Facebook dans quelques instants. C'est vraiment super intéressant. Vous voyez ces gens, premièrement, il y a un couple qui a perdu toutes ses économies lors de la crise immobilière de 2008. Ils ont réussi à survivre jusqu'en 2012. En 2012, ils ont fait faillite et ils ont déclaré faillite. Ils se sont achetés un véhicule récréatif d'occasion, 500 $, et c'est là qu'ils ont commencé à travailler chez Amazon. Et l'hiver, ils se réunissent à Quartzsite. C'est un site où tous les véhicules récréatifs convergent entre le mois de novembre et le mois de février. C'est à l'ouest, à peu près à 200 km à l'ouest de Phoenix. Et ils sont tous là. Il y en a qui n'utilisent pas les services officiels. Ils se raccordent pas. Ils font du boondocking.
Oui, boondocking. Ça, c'est quand vous n'avez pas d'eau, d'électricité. Vous devez être autonome.
Exactement, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y a vraiment des gens qui ont la vie difficile aux États-Unis.
Mais en même temps, c'est une tendance. Et évidemment, le secret, Richard, c'est qu'il faut habiter dans une région de l'Amérique où il n'y a pas un hiver aussi rigoureux que chez nous, ici, mais en particulier dans l'État de New York ou les États du Nord-Est.
Oui, mais justement, ce couple dont je viens de vous parler, le premier centre de distribution où ils ont travaillé, c'est à l'est de Reno, au Nevada. Et c'était pendant l'hiver, et à un moment donné, il gelait. Puis même sur le site Camper Force d'Amazon, Amazon donne des conseils sur la façon de comment on dit ça en français?
Hiverniser son véhicule
récréatif, ouais. L'isoler parce qu'à un moment donné, l'eau gèle, il n'y a pas d'eau. C'est une vie difficile. Vous avez vu, Thérèse, le film Nomadland. Je pense que ça nous donne l'impression, ça nous donne une bonne idée de la vie de ces gens-là, les nomades
oui,
américains.
Et
les Américains ont toujours été nomades.
Hein? Ouais. Puis je trouve ça extrêmement intéressant que t'en parles, Richard, parce que, effectivement, on oublie, oui, il y a des gens qui ont de la misère, mais là, tu vois aussi de la façon dont ils se débrouillent pour... Tu sais, ils s'arrêtent à quelque part, ils travaillent un petit peu, je cherche un emploi pour quelques heures, quelques jours, tu sais, puis ils trouvent de quoi. Je trouve ça intéressant de parler de ça, parce qu'effectivement, c'est un phénomène, c'est pas juste un film, là.
Et dans certains États, comme je le disais, on est obligé maintenant de réglementer. Il y a trop de ces gens qui vivent dans un tout petit véhicule récréatif. Portland, comme je disais, en Oregon, a été obligé de dire, c'est une ville d'ailleurs très ouverte, beaucoup plus à gauche que d'autres villes américaines, mais on a dit, on ne peut plus accueillir encore des véhicules, il y en a trop. Il y en a trop dans nos rues. Juste un petit mot en terminant, Richard, quelle semaine mouvementée qui a été dominée, bien sûr, par le verdict de culpabilité de l'ex-policier Derek Chauvin.
Bon, la grande question, c'est qu'est-ce que ça va changer? Pour les Noirs américains, c'est une libération. Le fait que finalement, un policier a été trouvé coupable de meurtre, parce que dans les statistiques, ça arrive très peu souvent. Depuis 2005, il y a 139 policiers qui ont été arrêtés pour meurtre ou homicide involontaire par arme à feu. 44 ont été trouvés coupables et 42 dossiers sont toujours ouverts, mais il y en a 7 seulement qui ont été trouvés coupables de meurtre dans des situations où il n'y avait pas d'arme à feu, comme dans le cas de Derek Chauvin. Là, ce que je veux dire aux auditeurs, actuellement, aux États-Unis, on est à un point tournant en démographie. On sait déjà qu'en 2044, les Blancs ne seront plus majoritaires. C'est quand même important, là. En 2044, plus de 50 % de la population va être constituée de Noirs, de Bruns, d'Asiatiques, d'Amérindiens, tous les non-Blancs. Et déjà l'an dernier, en 2020, chez les enfants de 17 ans et moins, ben ils sont les non-blancs sont majoritaires. Alors là, les blancs paniquent. C'est la raison pour laquelle on voit toutes sortes de d'actes anti-noirs. Les blancs paniquent actuellement. Ils se croient victimes et ils pensent qu'ils vont faire l'objet de discrimination lorsque cette majorité non-blanche va se concrétiser d'ici à 2044. C'est quand même proche. 2044, c'est 23 ans. Ça va aller très, très, très rapidement. Et alors, là, on a le Parti républicain qui réagit à ça en adoptant des mesures de suppression d'électeurs pour se maintenir au pouvoir, pour maintenir la majorité blanche au pouvoir. Il y a des lois anti-manifestations qui ont été présentées dans 34 États. Le Parti républicain, face à tout ça, est en train de devenir un parti autoritaire. C'est très inquiétant ce qui se passe actuellement aux États-Unis.
Alors, Richard, profitez de votre ville dont vous êtes si fier, New York, mais qui vient très loin.
122e, mais pour moi, c'est la première.
Merci. Ben oui,
assurément.
Évidemment, dans votre cœur.
Pas juste pour toi, Richard.
Merci, Richard. À demain.
Au revoir.
Avez-vous juste... Vous vouliez ajouter quelque chose sur les villes?
C'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit « Je suis déjà allé faire une livraison chez Microsoft il y a une vingtaine d'années. Et à la guérite, ils m'ont donné une carte géographique pour m'aider à trouver le bon entrepôt, tellement c'est immense. » C'est Mario qui nous raconte ça.
Ah, ben ça va.
J'avais été étonné d'avoir une carte pour me retrouver.
Mais en tout cas, je ne sais pas si un jour vous aurez l'occasion de passer là, mais les édifices, les entrepôts Amazon, là... dans la banlieue de Seattle, ça n'a aucun bon sens. C'est vraiment... c'est un building presque aussi gros que Boeing, qui justement est à Seattle, ou enfin à Everett, au nord. Au retour, justement, de grands espaces, avec Yvan Martineau.